avait dû amputer et qui était persuadé qu'on l'avait fait parce qu'il était allemand, sans que ce soit nécessaire, on avait donné comme voisin de lit un Français, amputé lui aussi, pour que l'Allemand vît bien qu'on coupait aussi les membres des Français. L'Allemand était triste et silencieux. Il répondait à peine à son voisin, qui lui offrait du tabac et s'efforçait de le comprendre. Augustin allait sortir quand il surprit au passage le mot d'une forme étendue sur un lit à la forme la plus proche. Il ne voyait pas leur visage, et Marie, le Justin, il lui tournait autour déjà quand on partait. Il eut le cœur saisi par une sorte de froid. Klein lui avait écrit. En Alsace c'était aussi dur qu'avant, et la lassitude perçait derrière les moqueries. Cette lente progression de l'humanité, du trilobite à Poincaré, mon Dieu, quelle horreur! Il donnait aussi des nouvelles de son père et de Bussy. Une fois par mois le vieux libraire descendait à Bussy pour y passer la nuit. Sans doute il y faisait du feu. Augustin l'imagina dînant avec Marie-Antoinette et cette pensée le réconforta. Il mit la main à la poche de sa vareuse et y froissa la lettre. Au bout de la salle commune il y avait deux ou trois bureaux de l'administration. On l'appelait le bureau des statistiques. Un capitaine de l'infanterie coloniale le dirigeait. Le soir, Augustin apprenait le jeu d'échecs à ce curieux officier qui fumait des cigares, regrettait Saint-Louis du Sénégal et n'aimait pas la guerre. Sa passion des arbres le rapprochait de Narsenael, le Lycuana Spinoza philosophique, le Sabal Blackburniana satanique, l'Iophorba Marigoli érotique, le Livingstone Australie aventurier les enchantait. À Salonique, le capitaine tenait le registre des morts. Un planton salua. « Bonjour, » dit Augustin. Le capitaine se leva. Il était en chemise. Son képi posé à portée de main débordait de cigares clairs. « Ça va, monsieur le professeur, » c'était sans ironie. Il y mettait même un peu d'admiration. « Ça va, les blessés sont jaloux. » En passant dans la salle, j'en ai entendu un qui regrettait Marie. Marie interrogea le planton. « La ferme, toi, » dit le capitaine, « enfin, » soupira Augustin en s'asseyant, « ça enfin comme vous dites. » « Tous les mêmes, je n'y comprends rien. Enfin, enfin qu'on est débarrassé d'elles, vous voulez dire, de ce qu'elles veulent pour nous. » Augustin fit un geste familier, celui qui signifiait peut-être, il ouvrit un petit calepin noir. « 5 aujourd'hui, je vais vous donner les noms et les numéros. » Le capitaine prit note et dit, « Voilà, il faut savoir ce qu'on a perdu. » C'était un peu avant Noël. Noël là-bas, ce n'était pas la même chose du tout. Le temps était assez frais. Augustin fut surpris de la chaleur soudaine. Il dégrafa son col. Il s'assit. Ça ne va pas, il ne répondit pas. Sa tête s'embrasait doucement, le cou d'abord, puis les mâchoires, les joues, le front. Il vit le planton saisir une bouteille d'eau, le capitaine venir vers lui, le minaret trembler derrière la fenêtre, mon commandant. Dit le planton. Augustin écoutait la rumeur confuse de l'hôpital, le roulement des chariots, sous le ciel gris, le dôme de la salpêtrière. Il étouffa. Les deux hommes le renversèrent en arrière. Le planton lui pressa un linge mouillé sur la nuque. « Marie, » balbutia-t-il, c'était Marie-Antoinette qu'il voulait dire. Le capitaine crut qu'il délirait. « J'ai la fièvre, » dit Augustin. Autour de lui on s'agitait. Le planton, l'air désolé, continuait de lui baigner la nuque. Une infirmière entra, s'excusa et ressortit. Des soldats regardaient par la porte entrouverte. « J'ai froid maintenant. Je sais ce que c'est, je sais, ne parlez pas, » dit le capitaine. Son bon visage était bouleversé par ce qu'il venait de découvrir. Augustin s'évanouit. Le capitaine cria « Brancardier, nom de Dieu !» Il eut une chambre claire au premier étage de l'hôpital, une chambre où il serait seul. À cet étage, il n'y avait que 4 chambres séparées par un couloir médian. De son lit, il voyait la mer plate et le maigre dessin des côtes. Lorsque la fenêtre était ouverte, il pouvait entendre, vers le soir, les crapauds sautillant d'une ombre à l'autre. C'était dans ces moments que le chagrin l'envahissait. Il ne résistait plus. L'envol des buses, la route de Châteauneuf, le pigeonnier de l'Ormdio et la serre des Grigorieff, tout ce qui revenait lui serrait le cœur. Quand l'infirmière, entre les crises, lui mettait aux pieds les chaussons de laine, il s'efforçait de ne pas pleurer. Il n'y parvenait pas toujours. L'infirmière détournait alors la tête pour ne pas voir les larmes couler sur ses joues grises. Pour eux tous, les blessés, les infirmières, les sœurs de l'hôpital, ceux du camp de toile et de la ville qui le connaissaient, c'était une terrible injustice. Beaucoup étaient morts depuis le début. Rares étaient ceux qui n'avaient pas laissé un ami à la Marne ou dans les Vosges, et les fièvres avaient emporté tant de survivants des combats, mais le professeur Pierre, le commandant, le major, le docteur ou monsieur Augustin, c'était différent. Il était gai, il était puissant, il chantait en opérant, c'était le salut, le secours. Des soldats qu'il avait soignés revenaient longtemps après, et se tenaient sans rien dire devant la porte ouverte de son bureau, du vin grec, des fruits dans les mains. Quand la nouvelle de sa maladie fut connue, les infirmières durent empêcher les visites. Alors ils écrivirent. Augustin reçut 50 lettres par jour. Ce n'étaient pas des lettres, mais des mots au crayon, des mots forcés et mouvants, de ce qu'on peut écrire à un Dieu protecteur qu'on voit inexplicablement frappé à mort et sur le point de disparaître. Le plus souvent Augustin ne se rappelait pas les visages, seulement les circonstances. L'infirmière de garde l'aidait.